RFI, 6h30 à Kinshasa et Paris, 7h30 à El Fasher.
RFI Matin.
L'heure du journal. Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour Andréane, bonjour tout le monde.
En RDC, une pétition pour que l'Assemblée se saisisse du dossier de la révision constitutionnelle.
Pétition portée par une organisation non gouvernementale congolaise qui dit avoir recueilli 100 000 signatures. On continue d'essayer de vous donner à entendre ce qu'est la situation humanitaire catastrophique à El Fasher, au Darfour Nord, au Soudan. On vous parle aussi de la France qui reprend son aide budgétaire à la Centrafrique et du Bénin où un groupe de travail de l'ONU qualifie d'arbitraire la détention de l'opposant Joël Aïvo et demande à Cotonou sa libération. Le journal des sports dans 10 minutes, la Côte d'Ivoire qualifiée pour la prochaine CAN, sans même encore avoir joué. Sur le grill aujourd'hui, le Bénin qui reçoit, entre guillemets, le Nigeria à Abidjan puisque le stade de l'amitié est en travaux à Cotonou. La volonté de réforme, voire de réécriture de la Constitution, continue de faire débat en République démocratique du Congo, alors qu'on attend la composition et la feuille de route de la commission qui devrait être chargée par le président Félix Tshisekedi de plancher sur le sujet l'an prochain. Voici une nouvelle pierre de poser dans le sens de cette refonte de la loi fondamentale congolaise. Une organisation de la société civile vient de déposer une pétition au bureau de l'Assemblée nationale. Pascal Moulegua.
L'Association nationale des victimes affirme avoir collecté 100 000 signatures comme l'exige la loi pour soumettre la question au débat à l'Assemblée nationale. Les signatures ont été récoltées à travers les pays selon l'ONG dirigée par Miran Moulumba.
Pas mal de dispositions constitutionnelles qui semblent devenir obsolètes et qui ne s'adaptent pas aux réalités démocratiques de l'heure. Les 5 ans que l'on peut accorder à un président de la République pour exécuter sa mission ou sa vision ne suffisent pas. D'où il est plus important que l'on puisse aller à 7 ans renouvelables une seule fois.
L'article 220 de la Constitution que l'ONG demande d'être changé touche également à l'indépendance du pouvoir judiciaire, à la forme de l'État ainsi qu'au principe du suffrage universel. Pour ceux qui ont collecté les premières 100 000 signatures, le processus sera long et complexe. Et plusieurs organisations proches du pouvoir affirment avoir emboîté les pas à l'Association nationale des victimes pour collecter des signatures. Si les principales figures de l'opposition ne se sont pas encore réunies pour contrer les partis au pouvoir à Kinshasa, la coalition de Martin Fayulu a déjà lancé une série de sensibilisations contre cette révision sous les slogans « Changeons Félix Tshisekedi et non pas la Constitution ». Aujourd'hui, certains craignent qu'une révision de la Constitution offre au président en fonction la possibilité d'obtenir un troisième mandat. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
Le président de la République, lui, était à l'ouverture hier à Kinshasa de la 10e édition du forum Makutano, du nom de ce raison d'affaires de la sous-région. Il y a de quoi discuter, puisque à haut niveau même, puisque de nombreux ministres congolais sont là. Le secteur culturel congolais a d'ailleurs des messages à faire passer. Le metteur en scène Israël Chipamba nous le disait hier dans Afrique Soir. Entretien à réécouter sur RFI.fr. La culture, levier de croissance économique pour la RDC, la croissance qui passe par plusieurs leviers de manière générale, c'est ce qu'a dit hier Félix Tshisekedi.
Le chemin est encore long. Nous devons poursuivre nos efforts pour renforcer la gouvernance, stabiliser des régions affectées par les conflits et garantir que tous les citoyens, jeunes, femmes et groupes marginalisés soient pleinement intégrés dans ce processus de développement. En mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'inclusivité, nous avons l'opportunité de transformer notre continent, de valoriser nos richesses tout en investissant dans notre capital humain. Je renouvelle mon engagement et celui de la République démocratique du Congo envers Makutano et son ambition pour une Afrique épanouie.
Le président congolais au forum d'affaires Makutano et au micro RFI de Paulina Zidi. La RDC qui a enregistré un accord avec le Fonds monétaire international par ailleurs. Hein. Un peu moins de 3 milliards de dollars pour deux programmes distincts du FMI, dont l'un pour doper la croissance économique justement et l'autre pour l'adaptation au changement climatique. C'est à la une de notre application RFI. Deux actualités dans l'est de la RDC. D'abord, cette attaque contre un convoi de Médecins sans frontières hier dans le territoire de Masisi. Sur la route entre Sake et Kichanga, les humanitaires se rendraient à Mweso. Leur équipement a été pillé. Un assaillant tué par les forces de sécurité congolaises. Et puis, cette dernière minute qui nous vient de Goma, le festival Amani est annulé. L'événement devait célébrer ses 10 ans dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Black M, Ferregola étaient notamment attendus sur scène. Mais la mairie de Goma et l'organisation n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Mardi, le maire de Goma, Faustin Kamande, avait réclamé cette annulation, arguant qu'il n'aurait pas été informé. ce que conteste vivement la direction du festival à Mani. Elle dit, je cite, « regretter profondément cette décision aux conséquences graves pour la dynamique culturelle et citoyenne de Goma. Les billets achetés seront intégralement remboursés. » La France a-t-elle violé l'embargo sur les ventes d'armes au Soudan ? C'est ce qu'affirme Amnesty International, image à l'appui. L'Organisation de défense des droits humains montre que des systèmes militaires de deux entreprises françaises sont utilisés par les forces de soutien rapide, les paramilitaires du général Hemeti. Ces groupes privés, KNDS et Lacroix en l'occurrence, vendent leur système à une société imirienne, société qui voit ses blindés de transport de troupes utilisés par les FSR. Pas de réaction, ni du côté des entreprises françaises concernées, ni du côté du gouvernement français, dont le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale est chargé de vérifier les exportations d'armes. Le Soudan et l'aide humanitaire autorisée à entrer via le point de passage d'Adré au Tchad, autorisation accordée en août dernier et prolongée hier. Cela fait suite à une discussion entre le chef de l'armée régulière soudanaise, le général Borane, et le secrétaire général des Nations Unies en marge de la COP29. La réalité sur le terrain, c'est que l'aide humanitaire parvient peu aux populations qui en ont besoin et que de toute façon, ce point de passage d'Adré ne suffit pas. Pour preuve, ce blocus que subissent des centaines de milliers, voire des millions de Soudanaises et de Soudanais coincés à El Fasher, cela fait 7 mois que les paramilitaires assiègent la capitale du Darfour Nord. Une grande partie de la population s'est déplacée depuis vers le camp de Zamzam. C'est à 8 kilomètres d'El Fasher. Écoutez Justine Musique-Picmal. Elle est la directrice régionale de l'organisation non gouvernementale Solidarité Internationale.
En termes de nourriture au quotidien, ils ont accès à un micro-marché qui a un peu de nourriture à l'intérieur. Cependant, c'est extrêmement cher. Donc les gens qui n'ont plus les moyens du tout sont partis sur Zamzam pour trouver de l'aide humanitaire plus directe. L'accès humanitaire est bloqué. Les rares personnes qui arrivent à travailler sont des équipes locales qui restent sur place malgré les bombardements et des attaques. Il n'y a aucun camion qui est arrivé sur El Fasher. On a quelques camions de UNICEF qui sont arrivés jusqu'à Zamzam. On est vraiment sur un tout petit niveau de réponse. Le peu de nourriture qui arrive sur El Fasher, c'est les commerçants d'autour. Koulbouz, qui est une ville qui est juste en dessous d'El Fasher, est un grenier de la zone. On est en plein milieu des récoltes. Donc, oui, il y a des commerçants privés qui passent, mais on parle de centaines de tomates et en centaines de légumes. Loin d'être suffisant pour une réponse humanitaire et de toute façon, les prix sont tellement faramineux que la réponse est improbable. Un blocus sur les axes aujourd'hui pour empêcher l'aide humanitaire d'atteindre des endroits comme Zamdan ou El Fasher devrait plus être une réalité en 2024.
Un dossier suivi par Alexandra Branjon. Radio France Internationale, merci beaucoup de votre fidélité si vous nous écoutez en ce moment sur le 90 FM à Cotonou. Au Bénin, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire affirme que l'universitaire Joël Aivo se trouve dans ce cas, détention arbitraire. Le document date d'août dernier, mais on vient d'en avoir connaissance. Joël Aivo avait été arrêté peu après la réélection de Patrice Talon en 2021. Cette voix critique a été depuis condamnée à 10 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Au moment du procès, ses avocats dénonçaient un dossier vide. Magali Lagrange.
La privation de liberté de Joël Aivo est arbitraire, selon les experts onusiens. Ils estiment que la détention du constitutionnaliste et opposant béninois est dépourvue de base légale, qu'il est ciblé pour ses opinions politiques et que son droit à un procès équitable a été violé. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire demande donc au gouvernement béninois de le libérer immédiatement et souligne qu'il a le droit d'obtenir réparation. Les autorités du Bénin ont été contactées par courrier pour répondre aux allégations de la source des experts. Précise le document, source qui évoque notamment des conditions de détention inhumaines dans les semaines qui ont suivi l'arrestation de Joël Aivo et des visites familiales limitées à quelques minutes à la vue de tous. Le gouvernement béninois n'a pas répondu dans les délais impartis. Il y a 2 ans, le groupe onusien avait déjà jugé arbitraire la détention de l'opposante Rekia Madougou, arrêtée en mars 2021 quelques semaines avant la présidentielle au Bénin et condamnée par la CRIET à 20 ans de prison pour complicité d'actes terroristes.
Une arrestation toujours au Bénin, c'était hier, celle de l'ancien directeur général de la police, le général Philippe Hong-Dénion, interpellé d'après nos informations à son domicile à Calavi, en périphérie de la capitale économique. Il est depuis plusieurs mois une voix critique du président Patrice Talon. On n'a aucune précision sur les raisons de cette arrestation. Le réchauffement se poursuit entre la France et la République centrafricaine. Après 3 ans de suspension, Paris a repris son aide budgétaire. Un accord a été signé hier entre l'ambassadeur de France à Bangui et le ministre centrafricain des Finances. Pour rappel, la France avait gelé en 2021 son aide budgétaire à la RCA, jugée à l'époque complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie. Correspondance de Rolf-Steve Domialeux.
Cet appui budgétaire d'un montant total de 10 millions d'euros, soit 6,55 milliards de francs CFA, sera injecté dans trois secteurs d'activité. Bruno Fouché est ambassadeur de France en Centrafrique.
5 millions d'euros, c'est-à-dire 3,28 milliards de francs CFA, en appui à la gouvernance économique et financière, ce montant permettra d'augmenter les revenus de l'État centrafricain. Deuxièmement, 3 millions d'euros, 1,97 milliard de francs CFA pour la résorption d'arriérés intérieurs. Et enfin, 2 millions d'euros, 1,3 milliard de francs CFA pour renforcer la contribution de la RCA à l'organisation des élections.
Ce financement, qui n'est ni un prêt ni un emprunt, marque un tournant important dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Hervé Ndoba, ministre centrafricain des Finances.
Cette aide budgétaire globale va permettre à la République centrafricaine d'accélérer l'ensemble des réformes économiques et financières importantes que nous avons engagées afin de nous permettre d'accélérer le processus de transformation pour une plus grande transparence dans les dépenses publiques.
La reprise de la coopération entre la France et la République centrafricaine intervient après une feuille de route signée en avril dernier entre le président français Emmanuel Macron et son homologue centrafricain Faustin Akonjo Touadéra. Rolf Esteve Domialeux, Bongui, RFI.
La France, dont les relations diplomatiques ne sont en revanche pas au beau fixe avec le Niger et ses autorités issues du putsch de juillet 2023. Et c'est dans ce contexte, on en parlait hier en bref, qu'une importante organisation non gouvernementale française se voit retirer son agrément par Niamey. Il s'agit d'ACTED. Et vous avez quelques détails ce matin, Sidi Yansané?
C'est par un arrêté lapidaire que le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur et membre de la junte du CNSP, a signé l'arrêt des activités d'ACTED au Niger. Le document se résume à l'annonce du retrait de l'autorisation d'exercice de l'ONG française sans avancer le moindre motif. Le même jour et dans un arrêté distinct, le ministre retire également son agrément à l'ONG nigérienne Action pour le Bien-être APBE, un partenaire local d'ACTED sur des projets humanitaires actuellement en cours. L'organisation française, qui n'a pas souhaité répondre à RFI, intervient au Niger depuis 14 ans dans les régions de Diffa, Tawa, Tillabéri et Niamey pour combler les besoins humanitaires des populations déplacées et victimes de l'insécurité au Sahel, en fournissant notamment de l'eau, de l'assainissement et du soutien agricole, une aide qui a bénéficié à 1 million de personnes selon ACTED. L'ONG a déjà connu une suspension de ses activités il y a 3 ans à Diffa suite à des accusations de connexion douteuse et subversive avec des terroristes. Un an plus tôt, elle était pourtant ciblée par l'État islamique qui a exécuté 6 de ses membres près de Niamey.
Sidi Yansané, une mobilisation dans plusieurs endroits du Mozambique hier pour cette nouvelle séquence de contestation des résultats des élections générales à l'appel de l'opposant Venancio Mondlane. Dans le nord, à Nampula, il y a eu au moins 6 morts dans la répression. Les partisans de Venancio Mondlane ont aussi bloqué le point de passage de l'Ebombo à la frontière avec l'Afrique du Sud. Dans la capitale, Maputo, c'était plutôt calme. Gros déploiement sécuritaire, il faut dire. À Maputo, il est 7h43, vous écoutez RFI Matin.